bah, qu'on soit noir ou blanc, moi je vais retenir ça. De... Non, Plus belle la vie, c'est un très très grand souvenir pour moi. J'ai incarné la commissaire Sarah Douala pendant 3 ans. Et ce qui est dingue, c'est que ça fait à peu près 5 ans que je ne suis plus dans cette série. Et on continue à m'en parler au quotidien. Ça a marqué les gens. Et voilà. Et je trouve que ce qui est bien avec les séries populaires, c'est qu'elles réunissent. Et on peut critiquer Plus belle la vie, mais c'est quand même une des premières séries dans laquelle il y a toute la société française représentée. Donc ça fait du bien.
Bienvenue dans Sériland, épisode 8. Grand entretien avec la comédienne et réalisatrice Nadège Bossondiane. Elle est apparue dans une tenue argentée, les cheveux tressés, un fin bandeau sur le front tel une princesse, sourire éclatant et le poing levé sur les marches rouges du Festival de Cannes. C'était au mois de mai 2018, aux côtés de la comédienne Nadège Bossondiane, 15 autres femmes noires, Aïssa Maïga, Firmin Richard ou encore Sonia Roland. Toutes signataires d'un livre manifeste intitulé « Noir n'est pas mon métier ». Sur ce parterre cannois symbolisant la puissance du cinéma international, être une femme comédienne noire dans une série ou au cinéma apparaissait tout à coup comme le parcours d'une combattante. Discrimination, stéréotypes, voilà le quotidien de ces actrices qui ont choisi de crier haut, de crier fort, non. Non, ma couleur de peau ne peut pas déterminer un rôle. Non, je ne me définis pas par cette même couleur de peau. En cette fin d'année 2020, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que Nadège Bossondiane, que le grand public a découvert dans Podium, Bienvenue chez Ichti ou encore Plus belle la vie, pendant 4 saisons, galère encore à trouver des rôles? Est-ce que cette militante pour le droit des femmes et des minorités garde espoir et croit au changement des mentalités? Bienvenue dans Sériland, à la rencontre de Nadège Bossondiane. Bonjour Nadège Bossondiane.
Bonjour Eva Rock.
Je vous présente Margot Barallon qui m'a accompagnée tout Bonjour. Au long de Bonjour. Cet entretien. Est-ce que vous avez gardé le poing levé depuis ce jour de mai 2018 sur les marches du Festival de Cannes?
En fait, je crois que je suis née avec le poing levé. Mes parents se sont rencontrés à une manifestation de soutien à Angela Davis quand elle était incarcérée. Un de mes prénoms, c'est Angela, pour Angela Davis. Donc je pense que le militantisme est en moi. Le poing, on l'a toujours gardé levé. D'ailleurs, je ne remercierai jamais assez mon amie, l'actrice et réalisatrice Aïssa Maïga, d'avoir été à l'initiative de ce livre, puisque c'est elle qui nous a réunis. Et c'est vraiment important parce que ce livre collectif, on n'a pas parlé juste de nous en tant que comédienne, en fait. On a parlé pour la société, pour ce fameux plafond de verre, pour l'impossibilité, pour l'invisibilité des personnes racisées. Je tiens à dire que racisée, ça veut dire personne victime de racisme. C'est un terme sociologique. Donc voilà, nous, on a parlé pour tous, et notamment pour les jeunes. Et les retours, d'ailleurs, le livre a marché. C'est quand même
un grand succès.
Un succès, on peut le dire, sur un sujet qui pouvait être clivant. Et ben, parce que les gens avaient besoin d'entendre ce qu'eux-mêmes vivaient. Et puis surtout, nous avons toutes raconté, avec des anecdotes personnelles, ce qu'on vivait, et les gens ne pouvaient pas imaginer qu'on vivait ça, en fait.
On va y revenir tout au long de l'entretien. Vous parliez de Plus belle la vie, dont on vient d'entendre le générique. Quand la production de Plus belle la vie vous appelle en 2010 pour incarner la commissaire Douala, est-ce que vous avez l'impression, à l'époque, d'être la noire de service?
Ben non. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que... parce que je suis un peu insolente. C'est que, justement... je connaissais un des producteurs et j'avais regardé un épisode, et c'était un épisode un peu cliché sur les sans-papiers, et donc je lui envoie, avec mon impertinence légendaire,
un mot très gentil,
bah voilà, très sympathique, ils disent ah bon, donc quand il y a des noirs dans votre série, c'est que des sans-papiers, sachant que j'ai rien contre les sans-papiers, mais c'était une manière de dire on n'est pas obligé de toujours présenter les noirs dans cette position là et en fait, quand ils ont cherché le rôle de la commissaire, du coup, il m'a envoyé un mot. Il m'a dit « Est-ce que tu as envie de faire partie de l'aventure ?» Et donc, il a fait un faux casting, puisque j'étais la seule à être présentée à la chaîne. Hein, donc voilà. Et en fait, j'étais pas la noire de service parce qu'il n'y avait pas de stéréotype dans la construction de mon personnage. Et les petites choses qu'il y avait inconscientes chez certains scénaristes, je dois le dire, je faisais le travail de tout de suite déconstruire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait un exemple où je devais parler au personnage... qui était une de mes meilleures amies, et je lui disais « Ah, ce soir, mon amoureux, je vais lui faire un colombo de poulet. » Et alors, le colombo de poulet, qui est un plat antillais, très très bon, hein, au demeurant. Mais mon personnage, on ne savait pas d'où elle venait, déjà, première chose. Deuxièmement, on s'en fout un peu, en fait. Et pourquoi je devais faire un colombo de poulet? Parce que je pense qu'inconsciemment, le scénariste s'est dit « Ah, c'est une noire, elle fait des plats de noir. » Et donc, moi, j'ai dit « Je vais faire une blanquette de veau. »
J'en étais sûre. J'hésitais entre la blanquette et le pot-au-feu. J'aurais dû miser sur la blanquette tout de suite. Nadège Bossondiane, je vous propose d'écouter un extrait de Plus belle la vie.
Lieutenant, mettez ce dossier de côté, s'il vous plaît.
Pourquoi ?
Parce que vous ne l'avez plus en charge, je l'ai confié à Bokran.
Commissaire, j'ai pas touché ce type. Je vous l'ai dit, vous m'avez cru. Pourquoi vous mettez à l'écart, là ?
Parce que j'ai pas le choix. Substitut a transmis la plainte de Bélia à l'IGPN.
Putain, merde.
Bon, alors à partir de maintenant, préparez votre défense, contrez les accusations et essayez de vous en sortir.
Mais je vais forcément m'en sortir, j'ai rien fait.
Ce sera à l'IGPN de trancher.
Est-ce que vous gardez un bon souvenir de ces 4 ans au sein du feuilleton de France 3 ?
Ouais, moi j'ai, en plus j'ai vraiment aimé ce personnage qui... Au début, elle était un peu trop sèche, etc. Et moi, j'ai vraiment travaillé aussi en disant au scénariste, faut l'assouplir. C'est pas parce que c'est une femme de pouvoir que forcément elle est dure. Et je l'ai trouvée et je l'ai amenée vraiment dans une folie. Je trouve qu'elle avait vraiment des trucs. Elle était un peu cintrée, quoi. Et j'ai adoré ça. Et puis surtout, c'est moi, je viens du théâtre et j'aime l'équipe, quoi. Et on était, voilà, j'entends c'était mon camarade Stéphane, voilà Fabienne. C'était vraiment quelque chose de très gay. Et puis. Il faut quand même se dire que ça fait aussi du bien de faire du bien. Et cette série, elle faisait du bien. Alors, pour certaines personnes du métier, quand je leur ai annoncé que j'allais faire Plus belle la vie, j'ai l'impression que je leur avais annoncé que j'avais un cancer généralisé, que c'était la honte d'aller faire une série populaire alors que je venais du cinéma. Et en fait, je ne comprends pas ça. Et j'ai tourné avec Jean-Luc Godard. Et Jean-Luc Godard, il regarde Plus belle la vie, il faut le savoir.
C'est un critère. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous disparaissez de la série ?
Alors... C'est le sujet qui fâche. En fait, à un moment donné, bon, pour expliquer aux gens, en fait, nous sommes intermittents du spectacle, c'est-à-dire qu'on doit faire un certain nombre de cachets, c'est-à-dire de contrats pour être indemnisé quand on ne travaille pas. Parce qu'évidemment, vous nous voyez beaucoup travailler, mais la plupart du temps, malheureusement, on ne travaille pas. Donc, il faut avoir le plus de contrats possible. Et moi, quand j'étais en Plus belle la vie, comme j'étais souvent dans la fonction de commissaire, j'étais par rapport à un décor et j'avais pas. Des fois, je pouvais tourner qu'un jour, même si vous me voyez souvent à l'écran, je tournais qu'un jour dans le mois.
Donc un jour de travail, un jour de salaire.
C'est un jour de salaire, voilà. Et donc, je passe une audition pour un casting pour jouer dans une série de TF1, on peut le dire. Ça s'appelait Peps. Mon agent, on le dit à la production, etc. Ils disent qu'il n'y a pas de problème. Et puis finalement, je pense que ça leur pose un problème, mais qu'ils ne m'en parlent pas. Et donc, pendant 6 mois, je suis dans un rapport assez schizophrénique, puisque personne ne me parle, mais je sens qu'il y a quelque chose. Et en fait, ils avaient décidé de m'évincer, mais ils ne me l'ont pas dit, en fait, ce qui est complètement leur droit. C'est-à-dire que, comme, encore une fois, je ne suis pas salarié fixe et je ne suis pas. Voilà. Et donc, du coup, j'ai dû partir de ce fait-là. Mais comme je suis une militante, je suis partie en racontant la vérité. Et après, voilà, on est entré dans une espèce de confrontation avec la production. Ils disaient, mais non, on lui avait dit tout ça. Bon, bref. Et en fait, c'est surtout qu'à un moment donné, on est artiste et qu'on peut pas juste faire un rôle. Et j'ai aucun regret et je ne cracherai jamais dans la soupe. Plus belle la vie, ça m'a apporté plein de choses. Et je suis très contente d'être allée faire Peps aussi. Donc, j'ai pas de regrets, en fait. C'est juste que, voilà, ça s'est un petit peu mal passé, on va dire.
Peps, vous jouez quand même la directrice d'école. Ouais. Donc, je me demande s'il n'y a pas un problème d'autorité avec Nadège Bossondiane. Parce que les scénaristes et réalisateurs ne vous imaginent à chaque fois que dans un rôle un peu strict.
Parce que, mais vous avez remarqué, c'est des femmes d'autorité, mais folles.
Oui. Donc,
c'est peut-être plus que...
Ça, c'est vous qui l'avez dit.
C'est peut-être la folie plutôt que l'autorité.
À quel moment de votre carrière vous allez comprendre que c'est difficile pour vous en tant que comédienne noire et en tant que femme aussi ?
Bah alors, je comprends assez rapidement que c'est difficile en tant que femme puisque... Non, d'abord, ça commence au conservatoire où on m'explique que j'étais censée avoir le premier prix d'interprétation. Mais le directeur me le dit en off. Il me dit, comme tu es noire, donc j'ai genre 16 ans, hein, j'ai encore plein d'espoir. Il me dit, mais comme tu es noire, eh ben, on t'a pas donné le premier prix puisque tu ne pourras pas faire carrière. Et donc, ils avaient donné à une Valérie, je te salue Valérie, où que tu sois. Je dis où que tu sois parce qu'elle n'est jamais devenue comédienne. En fait, de toute ma promotion, je suis la seule à être devenue comédienne. Mais parce que j'avais déjà une force de résilience incroyable en moi, parce que ça aurait pu me briser complètement. Donc déjà, je comprends qu'il y a un premier truc où t'es noire, t'es pas censée être là.
Comment vous réagissez quand on vous dit ça, même en off ?
Ah ben...
Vous êtes abattue ?
J'étais complètement... En fait, je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il me disait, parce que pour moi, on est dans un lieu qui est l'art et que justement, c'est là où on peut tout incarner et que moi, je rêve du théâtre de Peter Brook où tous les comédiens, qu'ils soient asiatiques, maghrébins, africains, français, bref, hein, tout le monde peut tout jouer. Et là, on me met quelque chose, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce que je n'avais pas dans ma vie et dans l'éducation que j'ai eue, on me met un miroir, on me dit, ben non, en fait, t'es noire d'abord. Et j'étais là, mais je comprenais pas en fait. J'ai mis du temps à comprendre en fait. Et après, tout au long de ma carrière, il a fallu que... En fait, c'est pour ça qu'on dit, on sait pas qu'on se construit, En fait, on se construit contre. On est tout le temps, Alors déjà, femme, il faut le savoir, hein, parce qu'on est quand même société patriarcale, hein, désolé. Mais donc la femme, bon, bah, elle est déjà inférieure de fait. Et la femme noire, c'est Spike Lee qui le dit, c'est la double peine. Et c'est vraiment ça. Et c'est pas se victimiser que dénoncer les faits, puisque c'était ça aussi qui était important par rapport au livre, pour revenir sur ça, c'est qu'on a toutes parlé dans notre coin, et on nous a tout dit, ah mais vous exagérez, etc. Et alors à moins que pas de peau sur cette photo que vous montriez tout à l'heure, et ben, il y a 16 folles, 16 menteuses, mais pas du tout. Et ce qu'on a raconté, c'était infime par rapport à ce qu'on vivait. Donc voilà, donc on est tout le temps en train de chercher des trésors d'ingéniosité pour ne pas être dans la déprime, parce que c'est violent ce qu'on vit.
Alors là, vous nous racontiez le premier fait de racisme ordinaire dans votre carrière, mais question plus personnelle, à quel moment vous comprenez que vous êtes noire ? Pardon si cette question
mais
vous
non,
choque de cette façon-là.
Parce que je suis noire, je ne sais pas.
Je voulais vous dire un truc, Nadège Bossangane.
Vous êtes noire. En fait, je le comprends dans des petites choses du quotidien que plein de personnes racisées vont comprendre. Que quand vous êtes dans une boulangerie, par exemple, et que vous demandez, je sais pas, une baguette, et qu'on va vous parler comme ça. Alors, deux choses l'une, si je ne parle pas la langue, ce n'est pas parce que vous parlez comme ça que je vais mieux comprendre. Et puis, elle veut quoi ? Elle veut. Et alors, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ces gens ? Et puis après, parce que aussi, j'ai. Ma mère militait aussi, ma mère m'expliquait des. Ma mère est métisse, bretonne et ivoirienne, et elle m'expliquait, elle m'a donné des clés, en fait, de compréhension de ça, en fait, du regard sur les autres. Et après, il y a des choses magnifiques à l'école, où justement, il y a des camarades qui oublient que vous êtes noir, et on est en train de décrire dans Emma Bovary, il y a une longue description des mains blanches, et puis ma copine, elle me dit « Ah, montre tes mains si elles sont blanches !» Et après, elle s'excuse, et je dis « Mais non, merci !» Que tu te dises pas « Ah, je vais pas lui demander parce qu'elle est noire !» Donc voilà, donc c'est assez vite, en fait, la société nous rappelle ça.
Margot ?
Alors, du coup, le fait d'être noir a fait que des rôles vous ont échappé.
Ah bah, bien sûr. Alors, en fait, c'est... Déjà, il y a certains rôles auxquels nous n'avons pas accès, du tout. C'est-à-dire qu'on ne nous les propose pas, de fait, de certains types de métiers. J'avais raconté dans le livre, par exemple, avocate. Bon, bah, noire, on ne peut pas être avocate, on a clairement dit à mon agent. Et après, il y a vraiment où, mettons, le casting vous est quand même fait passer l'audition, d'accord ? Le réalisateur vous choisit. Il se trouve que vous avez été bien ce jour-là, parce que vous, quand même. Eh bien, il y a un moment où, s'il y a un choix entre un rôle principal, hein, je parle, hein, entre une comédienne blanche et une comédienne noire, eh bien, on va dire. Les gens ne sont pas prêts. Cette fameuse phrase. Le spectateur n'est pas prêt, le téléspectateur n'est pas prêt. Et donc, on se retrouve avec. Pendant longtemps, quand on n'a pas compris ça, on peut se dire qu'on est tout le temps nul, en fait. Mais vraiment, c'est-à-dire que. Je me dis. Alors, je ne dis pas que je suis. Je n'ai pas dit que j'étais la meilleure actrice du monde, hein, mais je sais quand je suis bien et je sais quand je ne suis pas bien. Et quand je suis bien, je me disais, mais je ne comprends pas. Et après, je voyais qu'ils avaient choisi. Je disais, mais attends, elle n'est pas bien, en plus. Je ne comprenais pas. Et il a fallu que je me pose la question, que j'analyse ça. Et puis, j'ai trouvé une super psy aussi qui permet de ne pas devenir complètement ma poule parce que c'est violent.
D'accord, oui, parce qu'au-delà des rôles, il y a aussi le fait de décrocher des rôles importants. On sait que très souvent, les personnes racisées sont renvoyées à des rôles souvent de faire-valoir. Donc, il y a aussi l'enjeu d'essayer de décrocher un rôle bien écrit et principal.
Toujours la question de la construction du racisme et donc du regard de la personne blanche sur les personnes racisées, qui est un regard faussé. Parce que la plupart du temps est vu par un racisme inconscient. Et moi, je parle tout le temps de ce racisme inconscient-là. Parce qu'il y a des gens de bonne volonté qui vont vous dire... Parce que moi, des fois, je disais à des camarades réalisateurs, « Mais pourquoi dans ton film, il n'y a pas un tel ? Pourquoi elle n'est pas noire ? Ou pourquoi elle n'est pas maghrébine ?» Ah, j'y ai pas pensé. Ouais, mais alors si je la mets, ça veut dire... C'est comme s'il fallait une justification. Et à partir de ce moment-là, c'est là où ça ne va pas. Parce que moi, je ne veux pas des rôles de noir. Je veux des rôles, en fait. C'est ça qui va pas. Mais c'est la construction du racisme qui est comme ça.
Alors c'est très intéressant parce que je voudrais vous faire écouter l'extrait d'un film dans lequel vous jouez, Nadège.
Pourquoi Claude est-il devenu ce qu'il est devenu ?
J'ai pas révisé là.
Ah, parce que tous les matins il faisait
son petit déjeuner ?
Petit déjeuner, je t'en foutrais moi. Anne, parce que tous les matins il faisait son.
Son lit ?
Son jogging, bande de buses.
Son quoi ?
Son jogging. Faut que vous sachiez, les filles, que quand les Delpech, là, les Dèves, les Sardou, rentraient de boîte de nuit pétés comme des coins, Claude, dépotron minet, il était ici et yoguait. OK ? Et ça, c'est un exemple à suivre. Je ne veux pas d'alcool dans cette team.
Bien dans les têtes, hein. Magnolia!
Forever!
Comment tu prononces?
Forever? Forever?
Forever.
Comment tu dis?
Forever.
Forever.
Magnolia!
Forever!
Extrait du film Podium, Nadège Boussandian. Et moi, il y a un truc qui m'a sauté au visage. Quand j'ai revu cet extrait, vous interprétez donc une Claudette de Benoît Poulvorde qui se prend pour Claude François. Et c'est vrai que Claude François était toujours accompagné de femmes, dont une noire. Quel regard vous portez là-dessus?
En fait, Claude François, qui s'est inspiré des États-Unis, il a amené ce que lui, il aimait dans la danse, dans le show, en fait, dans le show, parce que c'est vrai que c'était un showman. Et du coup, c'est le premier à avoir amené des femmes différentes que les femmes blanches dites françaises, on va dire, de base. Et c'était incroyable, parce qu'à l'époque, c'était une révolution. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a amené des femmes noires qui avaient leurs propres cheveux. Je parle de ça parce que l'histoire des cheveux aussi, c'est quelque chose. Elles avaient ou les cheveux courts, ou les cheveux afro. En tout cas, on ne leur demandait pas de s'éloigner de l'essence de ce qu'elles étaient. Et ça, c'était une révolution. Alors moi, j'ai plein d'amis, quand j'ai fait ce film, qui m'ont dit « Waouh, tu vas faire une Claudette !» Alors moi, personnellement, je n'avais pas une passion pour les Claudettes, vu que moi, j'étais donc au conservatoire en train de bosser sur Chopin. Oui. Donc j'ai découvert ça beaucoup plus tard, voyez-vous. C'est ma vie.
C'est deux mondes différents,
Deux mondes différents, voilà. Mais c'était très important. Et moi, j'ai adoré faire ce film. Je réécoute là, cet extrait avec grande joie. Et je me suis rendu compte que ça a fait... Les gens étaient très contents aussi que d'un seul coup, il y a une comédienne noire. En plus, on était sur l'affiche, les quatre femmes, etc. Et pour le coup, alors là, on peut dire qu'on est juste dans le sexisme de base, puisqu'on est toutes en short et en string, mais il n'y a pas une manière particulière d'être plus maltraitée,
on va dire. C'est un autre combat,
c'est ça.
C'est un autre combat. Vous parliez du livre que vous avez présenté au Festival de Cannes, et dans ce livre, vous racontez notamment une scène de racisme ordinaire. Le rôle n'est pas pour vous, parce qu'il s'agit d'incarner donc l'avocate dont vous parliez tout à l'heure, prénommée Sandrine. Et je me suis demandé, si vous ne pouvez pas jouer une femme qui s'appelle Sandrine, comment sont choisis les prénoms des personnages que vous incarnez? Est-ce qu'il vous est arrivé déjà une fois de demander à la production d'avoir un autre prénom que celui qu'on vous avait attribué?
Merci pour cette question. Les gens ne se rendent pas compte. Alors, pendant très très longtemps, j'ai eu beaucoup de soucis avec Joséphine Baker. Mais beaucoup de soucis, parce que finalement...
On vous appelait toujours Joséphine?
Il y avait, dans les scénarii, c'était Joséphine, et je me disais, tiens, c'est Joséphine, et en fait, c'était Joséphine Baker, donc c'est-à-dire, vous voyez, le racisme inconscient dont je vous parle, etc., donc l'héritage de la ceinture de banane de Joséphine. Pendant très longtemps, j'ai discuté avec elle, je lui ai parlé, mais ça y est, j'ai fait la paix avec ça. Et puis, il y avait, alors si c'était pas Joséphine, en général, c'est Oufatoumata, très joli prénom, mais pourquoi, on va dire, c'est comme s'il fallait absolument, donc, si le spectateur ne se rend pas compte que vous êtes noir, on va vous donner un prénom de noir, comme ça, c'est jamais vrai. Et donc moi, une fois, dans une pièce de théâtre, et je me rappelle, j'avais pas de travail, c'était hyper compliqué. Une pièce avec Michel Galabru et Bernadette Lafont, paix à leurs âmes, que j'aimais tellement. Je reçois la pièce et je vois que le personnage s'appelle Blanchette. Parce que la blague, c'était que donc Michel Galabru était sur scène, il m'appelait Blanchette, et je devais arriver sur scène, et là, les gens étaient hilars. Il faut savoir que cette pièce, elle avait été jouée 10 ans auparavant, et qu'une comédienne que je connais avait joué ça. Avait joué en s'appelant Blanchette. Et je vous assure que je n'avais pas du tout de boulot et j'avais besoin de cet argent. Et je suis arrivée, j'ai dit, excusez-moi, première chose, est-ce qu'on peut changer ce prénom? On dit, ah oui, bien sûr, etc. Et donc, je me suis appelée Lucette parce qu'il fallait qu'il y ait une rime en et. En tout cas, j'ai pu le faire. Et ce qui est dingue et qui m'a fait énormément de peine, j'ai dû, à un moment donné, partir de cette pièce parce que j'étais en tournage. La comédienne m'a remplacée et elle a repris le Blanchette.
Elle n'a pas lutté comme vous
elle
l'aviez fait.
Alors qu'elle n'avait même plus à lutter.
Je voudrais vous faire part de mon expérience, parce que depuis quelques jours, je réfléchissais à qui inviter pour parler de ces questions de représentation raciale dans les séries, et je me suis surprise à taper sur Google « comédienne française noire ». J'ai trouvé ça extrêmement violent. Tout à coup, j'ai pris de plein fouet ce que vous dénoncez, en fait, au quotidien. J'étais incapable de donner plus de 5 ou 6 noms d'actrices noires, alors même... Et c'est ça qui m'a semblé violent, alors même qu'il me semblait être sensibilisé à cette question. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'en France, on est très en retard sur ces questions de représentativité ou au contraire que les choses commencent à changer?
Les choses changent, mais tellement longtemps que si on ne milite pas, si on ne parle pas, si, voilà, comme vous me faites là de m'inviter, si on ne continue pas à déconstruire, à éduquer, C'est-à-dire que mes arrière-petits-enfants, ils n'ont toujours pas vu le changement. Aïssa et moi, on fait ce métier depuis 25 ans, plus de 25 ans. Firmine Richard qui a commencé, etc. Et les choses changent tellement lentement. Et surtout, moi, ce qui m'a fait de la... Mais ce qui m'a effrayée, c'est que donc Assa Assila, Karidja Touré, qui étaient des jeunes comédiennes, elles vivaient ce que nous, on avait vécu il y a 20 ans. Donc, c'est pour ça que ça change très peu. Bien sûr que je peux dire... Je ne vais pas vous dire que ça ne change pas. Ça change. Mais... Je reviens sur un épisode douloureux. Quand Aïssa Maïga, au César, compte les personnes racisées
dans la salle
des Césars, évidemment, d'abord, on n'a pas compris qu'elle a fait quand même juste une punchline et de l'humour par rapport à 12, qui était le nombre de nominations de films de Roman Polanski. Mais je ne sais pas, les gens, peut-être ils ont dormi, je ne sais pas ce qu'ils ont raté ça. Mais c'est surtout qu'elle voulait dire, regardez comme c'est peu. Et bien sûr que ça change, et bien sûr qu'il y avait le film de Ladj qui était en compétition, bien sûr que Lina Koudry, elle a eu le César, on est super contents, et Roche Dizem. Ce qu'on veut dire, c'est que ça change très peu, et ça change aussi très peu dans le type de rôle proposé. Mm-hmm. C'est surtout ça, en fait, qu'elle voulait dire, Aïssa.
Margot, alors, vous avez fait du théâtre, du cinéma, des séries. Est-ce qu'il y a une différence, justement, sur cette représentation? Est-ce que, je ne sais pas, je me dis, la série, c'est peut-être plus récent. Est-ce qu'on s'améliore en représentativité dans les séries?
Alors déjà, je trouve qu'au théâtre, jouer, ça fait longtemps que je n'ai pas fait théâtre, des rôles beaucoup plus intéressants qu'au cinéma et à la télé. Parce que, je ne sais pas, mais il y a peut-être quelque chose avec la distance, avec le plateau, avec le... qui fait que voilà, on m'a proposé des rôles vraiment beaucoup plus intéressants. Et effectivement, je trouve, pour ça, petit coup de pied dans le cinéma français, que la télévision est en train, et notamment via les plateformes, est en train de changer ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... Ils se sont emparés de cette question-là beaucoup plus. D'ailleurs, on le voit hein, quand on regarde les séries. Beaucoup plus que le cinéma est un peu en retard encore.
Et bien alors justement, il y a une série française qui m'a particulièrement marquée cette année, qui est signée Lucien Jean-Baptiste. Il est le mari d'Aïssa Maïga, dont on parle depuis le début de cet entretien. Un couple noir qui a adopté un enfant blanc. Et ils sont par ailleurs les parents d'un autre garçon qu'ils ont eu naturellement. Et ça pose beaucoup, beaucoup de questions. Extrait de la série, Il a déjà tes yeux.
Excusez-moi, je veux dire par rapport à la situation, ça vous a jamais fait peur d'avoir un enfant noir, un enfant blanc?
Peur? Non, non, non.
Non, c'est pas peur. Mais il est vrai qu'on s'est rendu compte que, depuis qu'ils sont petits, il y a des préjugés qui sont tenaces.
Partez ! Allez !
C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est une famille, finalement, ce qu'il y a de plus normal. Juste peut-être un petit peu plus pittoresque que les autres.
Mmh. Voilà. De toute façon, de nos jours, une famille normale, qu'est-ce que ça veut dire ?
Nadège Bossondienne, pourquoi faut-il attendre 2020 pour entendre ce genre de dialogue à la télévision française ?
Ben, parce que, vous savez... Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à finalement pourquoi les choses elles bougent pas. C'est parce que il y a des gens qui pour lesquels ça a été facile d'être là et qui n'ont pas envie de bouger et qui n'ont pas envie finalement de laisser la place. C'est une histoire de privilèges et de continuer à avoir des privilèges et on le voit bien que quand on n'est pas du sérail, et ben on nous fait tout le temps remarquer ou on a l'impression tout le temps d'être l'exception. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, moi, je ne veux pas des rôles de noir, je veux des rôles, et puis voilà, etc. J'ai pareil, comme ce terme de diversité. J'ai l'impression que c'est un pays qui s'appelle la diversité. Puis alors, diversité, il y a tout. Hein. Alors, noir, gay, handicapé physique,
encore, hein.
Les femmes, allez hop, on vient tous de la diversité. Non, en fait. Et donc, c'est pour ça que c'est une histoire de s'approprier nos propres récits aussi. Il faut aussi que dans les institutions, que les gens qui soient décisionnaires, il faut aussi bouger. Parce que là, on parle de la notion d'art, enfin, via le prisme des artistes. Mais on peut parler des équipes techniques, on peut parler des équipes de production. Quand on arrive, c'est quand même très, très, très rare qu'il y ait des personnes racisées dans une équipe. Donc ça aussi. Et puis après, il faut aller dans les chaînes. Il faut aller voir aussi quelles sont les personnes qui décident de faire une série ou pas.
Mais est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous êtes pour les quotas?
Alors moi, je suis évidemment pour les quotas parce que les quotas, le positif des quotas, c'est qu'on a vu en politique que sans les quotas, on n'aurait pas autant de femmes politiques qu'il y a aujourd'hui. Après, les quotas, quand on me dit « Oui, mais alors du coup, on va te prendre parce que t'es noire. » Non, 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 non. Pas du tout, camarade. Ça veut dire qu'on va me donner l'opportunité d'avoir accès à des rôles, des métiers auxquels je n'aurais pas eu accès avant. En fait, c'est pour ça que je suis évidemment très contente de par rapport aux Oscars 2024 et de la liste de critères auxquels il faut correspondre. Pour être en compétition pour les longs métrages. Et c'est pareil, équipe technique et équipe artistique. C'est très important parce que sans ça, je suis désolée, mais ça ne changera pas.
Alors, sans doute, vous avez vu Tout simplement noir, le film de Jean-Pascal Zadi.
Je ne sais pas de quoi vous parlez.
Le film qui est sorti
c'est mal me connaître.
en juillet au cinéma. Il est aussi l'auteur, Jean-Pascal Zadi, d'une excellente web-série que je vous recommande et qui est disponible sur France.tv et qui s'appelle Craignos Extrait.
Et pourquoi je ne serais pas plus crédible qu'un autre ?
Et parce que pour être mère, il faut être blanc.
Et vieux. Il faut des diplômes. Beaucoup de diplômes.
Et moi, je trouve que c'est ça le problème. C'est pour ça que la politique, c'est loin du peuple. Tu vois ce que je veux dire ? Les gars, ils sont pas dans notre monde.
Attends, ok. Bah, vas-y. C'est quoi ? T'as une directrice pour mener ta campagne ?
Derrière l'humour, il se cache une vérité, en fait. Il utilise l'humour pour ça.
Mais je trouve que ce qui est vraiment bien avec l'humour comme vecteur, c'est qu'on peut dire plein de choses. Et puis, en fait, les gens, ils sont dans un premier temps, ils rigolent. Et puis après, ils font « Attends, mais qu'est-ce qu'il vient de dire, en fait ?» C'est très important parce que il y a une projection de ce que nous sommes en tant que personnes racisées qui n'est pas ce que nous sommes. Et on le voit, il y a des études qui ont été faites, notamment sur la perception sur l'homme noir, l'agressivité potentielle, etc. Nous, les femmes, c'est plus qu'on est hypersexuels. Et du coup, notre parole, elle a du mal à être entendue. Et on le voit bien, puisque quand une personne blanche va dire les mêmes choses qu'une personne racisée, ce sera beaucoup plus entendu. Donc l'humour permet ça.
Alors, Margot, l'humour permet ça, mais est-ce qu'on manque pas aussi en France justement de fiction très forte, politiquement engagée et sur un registre peut-être plus dramatique ? Quand on pense aux États-Unis, ils ont des séries comme Seven Seconds ou Dans leur regard, qui sont deux séries Netflix sur les violences policières faites aux Noirs. Voilà, c'est des séries, on rigole pas quoi, c'est extrêmement engagé. Est-ce que ça manque pas dans la production française ?
Je suis d'accord avec vous et puis c'est intéressant parce que finalement, les seules choses qu'on voit en France, quand il y a des personnes racisées, évidemment, c'est l'humour. Et moi, j'aimerais, à part le film de Ladj, parce que c'est pas de l'humour du tout, dans Les Misérables, mais c'est une exception. Moi, j'ai vraiment envie qu'on soit sur autre chose, en fait. J'ai vraiment envie de raconter des choses, d'ailleurs, je le fais.
Et oui.
Oui.
Mais oui, on peut faire la transition avec ce que vous êtes en train de dire. Hein.
Bah,
parce
en fait,
que vous devenez réalisatrice.
Oui, c'est une grosse blague par rapport à ça. Je suis une vieille actrice, mais une jeune réalisatrice. en fait, j'ai participé donc, grâce à Laurence Lascari, qui est productrice de l'autre côté du périph', qui a produit notamment L'Ascension, film avec Ahmed Silla. Elle a donc monté un concept qui s'appelle Dans mon hall. C'est un réalisateur ou une réalisatrice, pardon, qui va dans une cité, dans des quartiers populaires. C'est en France métropolitaine, mais pas que. Et donc, moi, j'ai eu la chance de participer en Guadeloupe. Donc, j'en reviens là. Et donc, le concept, c'est que vous venez pendant 3 jours, vous écoutez les habitants, les habitantes. Puis, vous allez pendant 2 jours écrire les scénarios en fonction de ce qu'ils vous ont raconté. Et puis, la semaine d'après, pendant 4 jours, vous travaillez avec eux et vous faites donc 3 films en 2 jours et demi. Ce qui est une espèce de Koh-Lanta de la réalisation. C'est l'assistante de production qui a dit ça, je lui reprends ça. Et c'est exceptionnel. Et c'est exceptionnel parce que, en fait, ça, pour moi, ça a tout le sens de mes engagements militants et artistiques et politiques. C'est-à-dire que vous venez à un endroit chez des gens, des quartiers populaires, on n'arrête pas de leur dire « Tu sors d'un quartier chaud, tu ne feras jamais rien de ta vie. » Tu seras dealer, tu seras je sais pas quoi, tu feras pas d'études, etc. Et on vient pour leur donner un autre regard sur eux-mêmes et aussi de planter cette petite graine du chemin des possibles auxquels ils n'avaient même pas accès. C'est-à-dire qu'ils ne s'imaginaient pas. Quand moi, je leur dis, vous savez, moi, j'habite à Créteil, ma mère n'est pas dans le cinéma, et ben voilà, je suis une femme et ça fait 25 ans que je fais ce métier. C'est exceptionnel. On est vraiment dans tout ce que j'aime de rendre concret, en fait, justement, ce dont vous parliez de la représentation des personnes racisées, et c'est vraiment exceptionnel. Et dans mes films, il y a de l'humour, mais pas que.
Alors, 2 questions à la réalisatrice.
Oui.
Première question, est-ce que le fait d'être réalisatrice, ça vous met dans une autre position ? C'est-à-dire que ça y est, vous êtes la patronne, et au moins les questions de choix par rapport à la race ou le sexe ne se posent pas. Et deuxième question, est-ce que vous faites attention en tant que réalisatrice à la parité ou à la représentation des uns et des autres, même dans l'équipe technique ?
Alors, la première chose, c'est que moi, je me suis dit, bon, comme je suis actrice qui arrive nouvellement à la réalisation, je pensais que les réactions machistes que j'entendais étaient à cause de ça. Et comme je suis en mentorat avec des amies réalisatrices, elles m'ont fait « Non, que nenni, c'est parce que tu es une femme. Donc ta parole, on s'en fout. » C'est-à-dire que j'arrivais avec mes idées, etc., etc. Mais il y avait tout le temps ou le chef-op, ou le premier assistant qui prenait ma place, qui essayait de prendre ma place. C'était mal me connaître, parce que j'avais fait le boulot, moi. Donc déjà, on se rend compte que même si ce sont vos idées, vos cadres, l'idée de lumière que vous avez, eh ben, on vous ramène. Donc ça, c'est le patriarcat, hein, toujours ce truc de la femme, donc tu es inférieure. Ça, c'est la première chose. Et l'autre chose, moi, j'ai veillé, évidemment, quand j'ai écrit, j'ai veillé déjà à ce qu'il y ait le plus de gens possible, mais par, vraiment par le fait que ce soit des habitants, des habitantes, et j'avais envie qu'il y ait toutes les générations en plus qui soient représentées. Mais j'ai fait attention à la parité. Vraiment, je me suis dit, ah ouais, après j'ai fait attention aussi, je me suis dit, non, pas non plus que trop, du coup, par défaut, qu'il y ait trop d'héroïnes, parce que là, donc vraiment dans mes films, il y a autant d'hommes que de femmes, et de tous les âges. Et puis dans l'équipe technique, comme j'étais en Guadeloupe, je connaissais pas tout le monde, etc. Mais quand même, là, je suis en train de chercher, et j'ai rencontré une femme, je pense, qui va faire le mixage, et j'étais tellement contente, j'ai fait, ah mais ouais. C'est important parce que, en fait, quand on a l'éveil de ces questions-là, on a une responsabilité aussi. Moi, je suis dans le collectif 50-50 aussi.
Vous pouvez nous rappeler ce que c'est, le collectif
50-50? Ce sont des femmes réalisatrices qui ont initié ça pour notamment dénoncer le manque de parité dans les fictions, dans les représentations, dans les instituts, dans les instances, etc. Et puis, elles travaillent aussi aux questions qui me sont chères à moi, des problèmes sur les violences sexuelles, sur les lieux de tournage, la diversité. Voilà, donc c'est vraiment un collectif vraiment, vraiment très, très intéressant, très fort, et qui a réussi à faire que dans les festivals, maintenant, il y a une charte, et que si on ne correspond pas à cette charte, ben, on a moins d'argent. Voilà,
le nerf de la guerre.
On peut faire des choses.
Nadège Bossondiane, il y a une image qui est apparue devant vous et derrière vous, en l'occurrence.
J'adore.
Série disponible sur OCS qui s'appelle Insecure, qui est portée par une femme absolument lumineuse qui s'appelle Issa Rae. Donc, a priori, vous la connaissez.
Ouais.
Je vous propose un petit extrait. Elle est avec ses copines et ça parle sexe.
Ok.
Je vais pas sortir avec ce négro.
C'est quoi le problème? Andrew est trop mignon.
Et il doit beaucoup t'aimer parce que moi, à sa place, ta veste là, je l'aurais bazardé vite fait.
C'est lequel, Andrew? Le noir ou l'asiatique?
L'asiatique.
Non, parce que j'ai couché avec le noir. À mort.
Ok, meuf, pourquoi t'es pas emballée? Parce qu'il est asiatique?
Je te jugerai pas.
Je te jugerai. Je suis déjà sortie avec des mecs d'origine différente, mais je veux finir avec un homme noir, alors.
À quoi ça me servirait?
Ça te servirait à plus être célibataire, genre.
Célibataire à fond.
Tu sais quoi? Je vois un buisson dépasser de ta culotte.
Ok, tout le monde se calme. C'est que j'ai plus le temps pour un rattrapage culturel.
Insecure, que je vous recommande évidemment en version originale, on vous a mis la version française, voilà. Mais on a compris le message quand même derrière. J'ai envie de vous demander, Nadège Bossondiane, et le sexe dans tout ça. Est-ce que les couples mixtes, par exemple, sont pas trop rares à la télé? Et dans les séries.
Alors, mais oui, mais c'est toujours cette histoire de prisme qui raconte, qui va décider de mettre des acteurs ou pas. Qu'est-ce qu'on a envie de raconter? Évidemment que je trouve qu'on est encore vraiment frileux. Et puis à chaque fois, c'est surtout qu'il faut justifier, quoi. C'est-à-dire que moi, mon mari, il est blanc arménien, mais en fait, what the fuck, je m'en fous. Pardon. Pour les
mais dans la vraie vie, hein. Il faut préciser.
Oui, pardon, dans la vraie vie. Qu'est-ce qu'elle raconte?
Pardon, parce que là, on ne savait plus où on était.
Oui, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, mon mari, dans ma vraie vie. Mais on s'en fout. Enfin, je veux dire, je l'aime, je m'aime. Enfin, donc, en fait, il faudrait vraiment, c'est vraiment sur ce il faut lutter, sur lequel il faut lutter, pardon, de toujours, 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 toujours se dire pourquoi pas. Alors, ok, pourquoi vous ne mettriez pas? Voilà, en fait, de même que à la base, quand il y a un rôle et que si ça n'a pas une incidence, ça pourrait être une femme. Et ben après, l'étape d'après, c'est ben si ça n'a pas une incidence, pourquoi ce n'est pas une personne racisée?
Donc il y a du boulot,
il y a du taf.
À quel moment vous allez pouvoir vous dire ça y est, ça va mieux, on est sur le bon chemin, ou on y est arrivé?
Ben j'aimerais bien vous le dire demain, mais je crains que ce soit après-demain. Écoutez, je sais pas, je trouve que ça bouge, et puis surtout, on est en train de faire des alliances, je ne peux pas tout dire, mais en fait, on est en train de faire des alliances avec des gens et des personnes éveillées, intelligentes. Je parle des personnes blanches, éveillées, intelligentes, parce que ce n'est pas un problème de noir, c'est un problème d'humain. Et quand on aura compris ça, on aura déjà avancé, parce que, vous voyez, vous m'invitez ici pour parler de ça, c'est formidable, c'est ce qu'on appelle les alliés, et nous avons besoin d'alliés. Et voilà, et donc, avec Aïssa, donc Maïga, je parle beaucoup parce que je l'aime énormément, on a des alliés, on a des gens très intelligents, vous avez vu cette une exceptionnelle avec Adèle Haenel et Aïssa Maïga de Libération, ça change, les choses elles sont en train de changer, parce que les luttes elles sont transversales, et quand on aura compris ça, on va avancer beaucoup plus vite. C'est le féminisme intersectionnel dont on fait partie.
Mais peut-être qu'une fois que vous n'aurez plus d'alliés, ça voudra dire que tout va bien.
Ouais, alors
vous n'aurez plus besoin de nous.
Je suis pas sûre que ce soit tout de suite. Hein.
On va y croire.
Hein,
on va y croire.
Mais je suis optimiste.
Mais nous aussi, Margot, vous êtes optimiste aussi.
Oui, ça dépend des jours. Mais là, aujourd'hui, après cet entretien, très.
Margot, est-ce que vous avez un conseil d'une série qui, où la communauté noire est représentée, qui vous a plu ou que vous avez envie de conseiller ?
Eh bien, moi, j'ai beaucoup aimé la série Little Fires Everywhere, qui est sur Amazon Prime Video, où on n'a pas du tout l'impression que ça va parler justement des questions raciales, et en fait si. Et
ça sous-tend la série.
Ça sous-tend vraiment la série, et c'est amené de manière très fine. C'est vraiment très intéressant.
Voilà, c'est sur Amazon Prime Video. Allez-y, avec Reese Witherspoon.
Moi, j'en ai une
bien.
Aussi, je peux dire.
Allez-y, je me sens bien, bien sûr.
J'adore Michaela Coel, qui est juste exceptionnelle. Si vous n'avez pas vu I May Destroy You, je vous l'invite. Mais vraiment, il faut voir cette série qui, en plus, parle d'une manière vraiment très, très intelligente et très réfléchie et très subtile de ce qu'est l'après-viol, du rapport au corps, de l'amnésie traumatique, dont vraiment je vous conseille de regarder cette série. Elle est incroyable, cette femme.
Alors, je valide ma 1000%. Je pense que c'est mon coup de cœur, série de l'année, vraiment. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment, Nadège Bosson-Diane, pour votre franchise et vos mots. En attendant de découvrir vos premiers films.
Oui, il y en a trois.
Puisqu'il y en aura trois. Je sais qu'il y a des projets aussi en télé et on va continuer à vous suivre. Et puis, à vous qui nous écoutez, je vous encourage à lire Noir n'est pas mon métier. C'est aux éditions du Seuil. Et puis, autre lecture extrêmement intéressante, La question raciale dans les séries américaines. C'est aux éditions Sciences Po Les Presses, signé Olivier Estève et Sébastien Lefay. Dans les prochains épisodes de Sériland, nous évoquerons la série événement de Canal+, La Flamme, une parodie de l'émission Le Bachelor, réalisée et incarnée par Jonathan Cohen. Sériland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par Une Fée, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses et en plateau par Clémence Olivier et Margot Barallon. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite et surtout je compte sur vous pour en parler, commenter, nous dire aussi quelles sont vos séries préférées. Je vous attends notamment sur le groupe Facebook Sériland. Attention, vous le savez désormais, dans Sériland, il y a une règle et une seule, pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.